BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Parce que l'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours et que la blockchain contient une fraction de cet avenir. On vous parle des crypto-monnaies de blockchain chaque vendredi. Les pros des cryptos, Owen Simonin à la tête de Just Mining, connu aussi pour sa chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen.
Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde.
Il n'y en a pas deux comme elle, elle est notre experte non fongible, notre NFT, Claire Balva. Bonjour Claire.
Bonjour.
Et bienvenue, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France, puis Vincent Gann, toujours avec nous depuis TradingView France. Oui. Et j'espère que vous êtes prêts, on est parti, place aux nouveaux investisseurs. Et d'abord Vincent, ce Bitcoin toujours bon pied, bon oeil, très costaud, solide, campé, ancré au-delà des 60 000 $, encore aujourd'hui le Bitcoin. Quelle perspective désormais sur le Bitcoin alors que les actions battent des records jour après jour? Quelle perspective, quel potentiel voyez-vous pour le Bitcoin?
Oui, alors c'est vrai qu'à la différence du marché actions ou des indices boursiers, le Bitcoin n'a pas fait cette erreur de s'envoler en mode vertical et d'avoir des caractéristiques de bulle spéculative. En fait, depuis le 20 octobre dernier, rappelez-vous, il y a eu une tentative vaine, par contre, de dépasser les records historiques. Et puis le marché a réintégré ces records historiques, mais n'a pas chuté pour autant, n'est pas rentré en correction. Alors en fait, pour résumer la situation, nous sommes dans une phase latérale, un trading range, une phase neutre sous ces records historiques où je pense, moi, que le marché met en place les conditions techniques saines pour pouvoir, dans un second temps, retenter un dépassement des records historiques en évitant une situation de surachat ou de bulle spéculative. Alors, deux semaines donc de stabilisation, les bornes 58 000 $ le support, 63,5-65 $ la résistance, une phase latérale qui je pense va durer. Pourquoi ? Parce que le cours du Bitcoin a passé d'une certaine façon le relais aux altcoins. Alors, pas de manière homogène, mais de manière hétérogène. Et c'est plutôt quelque chose de positif. Donc, une phase latérale sur le Bitcoin qui met en place les conditions d'un dépassement futur des records historiques et dans de meilleures conditions techniques. Et peut-être, pour terminer sur le Bitcoin, qu'un jour aurons-nous, vous savez, cet objectif de cours dont parle la première banque américaine, JP Morgan, les fameux 146 000 $ qu'ils visent pour le cours du Bitcoin. Alors, je ne sais pas comment ils ont trouvé, comment ils ont valorisé ça. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'ils ont rappelé cette semaine et que je voulais rappeler aux auditeurs. Les 146 000 $, l'objectif de court long terme de la banque américaine JP Morgan.
La Fed a dévoilé un peu sa stratégie à venir, à savoir qu'elle procédera à désormais moins de rachats d'actifs. Elle sera un tout petit peu moins accommodante désormais, la Fed. On appelle ça le tapering. La marée de liquidité va moins monter et cette marée va carrément cesser de monter à partir de la mi-2022. Est-ce que ça pourrait avoir, Vincent, un impact sur le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies?
Alors, c'était la grande question cette semaine. En fait, même, c'est une question, je pense, une très bonne question, Guillaume, et générale par rapport aux actifs risqués dans lesquels on peut mettre les actions et le cours des crypto-monnaies. Alors oui, la Réserve fédérale commence à partir de ce mois-ci à acheter moins d'actifs. Elle réduit donc chaque mois son rythme d'achat d'actifs. J'ai été surpris, moi, cette semaine. Je pensais qu'on pouvait avoir justement un choc correctif sur les actifs risqués, sur le marché actions. Ça n'a pas été le cas. Encore une fois, cette capacité à avoir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais en fait, il y a eu une autre information, c'est que les banques centrales, la Fed et aussi la Banque Centrale Européenne, elles rappellent une chose, c'est que les taux d'intérêt, eux, ne sont pas prêts d'engager une phase haussière. Et finalement, c'est ça qui reste très important. Moi, je commencerai à m'inquiéter pour la tendance boursière des cryptos en général, lorsque réellement les banques centrales feront comme elles étaient capables de le faire dans le passé, c'est-à-dire d'augmenter de manière régulière leur taux d'intérêt. Et pour le moment, elles ne semblent pas prêtes de le faire et peut-être même pas l'année prochaine.
Bon, on va donner la parole dans un instant à Claire Balva, bien sûr, et Owen Simonin. Juste un dernier mot, puisqu'on a beaucoup parlé de Bitcoin, et puis vous avez rapidement cité les altcoins. Certains altcoins ont inscrit de nouveaux records historiques également récemment. Mais il y a beaucoup d'hétérogénéité, bien sûr, entre les altcoins. Comment est-ce qu'on voit la suite? Est-ce qu'on peut d'ailleurs parler de rotation sectorielle sur ce marché des cryptos, comme on en observe régulièrement sur le marché actions, Vincent?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est une remarque très pertinente. Le cours du Bitcoin est en range depuis deux semaines. On cherche toujours à évaluer l'intérêt ou désintérêt des institutionnels vis-à-vis du marché crypto en général. Si le cours du Bitcoin ne monte plus depuis deux semaines, c'est qu'en fait, les capitaux se sont dirigés vers ses fidèles suiveurs, vers les alts. Alors, il y a un mouvement général qui est favorable aux alts, mais qui n'est pas homogène. Effectivement, qui a fini aussi par se diriger vers les alts majeurs. Alors, il y a eu le tour d'Ethereum. Cette semaine, on peut citer le Binance Coin, le BNB, qui avancent bien. Donc c'est plutôt globalement un message positif pour la classe d'actifs des cryptos de voir régulièrement cette rotation entre Bitcoin et le marché des alts. Et là actuellement c'est le meilleur scénario possible, un Bitcoin en range et des alts qui elles progressent, mais de manière hétérogène.
Et on parlera tout à l'heure de l'Ether parmi les autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Pendant ce temps, tout l'écosystème regarde la Chine de plus en plus même. Il semble que la Chine accroisse le temps d'avance qu'elle a sur un certain nombre de pays et de continents. L'adoption du wallet pour le yuan numérique a fait beaucoup de bruit ces derniers jours et il semble que ce soit un succès. Est-ce qu'on a déjà des chiffres sur le succès, l'adoption de ce wallet pour le yuan numérique, Owen?
Tout à fait. Alors, sur les 4 derniers mois, le nombre d'utilisateurs a été multiplié par 6. On est aujourd'hui à 140 millions de personnes, soit à peu près 10% de la population chinoise qui utilise ce wallet. Grosse surprise. On parle d'une pénétration de marché qui est très 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 rapide et honnêtement, personnellement, je ne pensais pas que la Chine pouvait être aussi agile sur une jeune technologie comme celle-là. De plus, on est passé de 3 500 000 corporate à 10 millions de corporate qui utilisent le wallet. Ça fait, pour être exact, 150 millions de transactions pour un volume de 60 milliards de dollars quelques semaines après le lancement finalement, parce que bon, ça va faire un peu plus de 4 mois, mais c'est affolant de se rendre compte à quel point ça progresse, ça performe, mais évidemment c'est poussé par le gouvernement et du coup c'est très rapidement adopté par la population.
Ah oui, plus de 100 millions de Chinois qui ont adopté, c'est incroyable quand même les chiffres chinois et ce coup d'avance de la Chine qui se confirme. Ceci dit clair, la Chine n'est pas encore le monde, ça bouge aussi par-delà l'horizon chinois, dans le monde du dollar d'ailleurs, du nouveau ces derniers jours du côté des stablecoins aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez noté de plus frappant?
Et oui, un rapport interagence est sorti sur les stablecoins et leur réglementation. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des stablecoins sont indexés sur le dollar. Donc, la position des régulateurs américains sur les stablecoins dollars a quand même une grosse influence. Et là, c'est un rapport qui regroupe plusieurs régulateurs et donc qui est d'autant plus puissant dans ses annonces. Grosso modo, ce rapport, il part du constat que les stablecoins dollars explosent et qu'il faut plus de régulation. Donc il faut réglementer les émetteurs de stablecoins, donc ceux qui vont avoir des réserves et puis qui vont émettre ces tokens indexés sur le dollar. Il faut les réglementer quasiment comme des banques, donc comme des institutions dépositaires, assurées, etc. Il faut réglementer aussi tous les acteurs de la custody, donc les portefeuilles qui vont stocker ces fameux stablecoins pour autrui. Et puis, il faut déconcentrer un peu ce secteur. En fait, le rapport alerte sur le risque de concentration de pouvoir économique entre les émetteurs de stablecoin et puis ceux qui ont des activités commerciales. On pense notamment aux exchanges comme Coinbase ou comme Binance qui ont de forts liens avec les stablecoins comme l'USDC ou le Binance USD. Et donc, ils vont peut-être devoir se distancer de la gouvernance de ces stablecoins.
Ça bouge hein, de tous les côtés. Les États-Unis dans une course aussi face à l'Europe, pour l'instant ça va, surtout face à la Chine. Si tu ne viens pas à la Chine d'ailleurs, c'est la Chine qui vient à toi. Ce mercredi, la Chine est venue en France. En tout cas, Changpeng Zhao, alias CZ, le PDG de Binance, est passé à Paris au ministère de l'économie où il s'est entretenu avec notre secrétaire d'État chargé de la transition numérique, Cédric O. Plusieurs sujets ont bien sûr été évoqués. Pour quelles raisons le patron de Binance, la plateforme de trading chinoise, est-il venu à Paris?
Alors, en fait, ça part d'une belle histoire. Le début de cette belle histoire, c'est CZ qui annonce tout simplement avoir envie depuis très longtemps de découvrir Paris et de venir dans cette ville. Ça, tout commence comme ça. En réalité, on sait également que dans son séjour, il avait un passage probablement stratégique, car c'est toujours stratégique quand Biden se déplace, dans le sud de la France. On ne sait pas pour voir qui, probablement des acteurs crypto, les spéculations sont ouvertes. En attendant, il en a profité du coup pour donner cette fameuse conférence et il a dit que la France l'intéressait particulièrement de par la position stratégique du pays et de son engagement dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, mais également, et ce sont ses mots, par l'esprit cartésien qu'ont les Français et qui leur donne forcément une appétence à la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies.
Bon, bah c'est beau tout ça. C'est très très beau même. Il a flatté, là, le patron de Binance, il a flatté l'esprit français. Dans cette table ronde, Binance a évoqué un projet d'un fonds de 100 millions de dollars en France, probablement à Paris. Claire, quel serait l'intérêt d'un fonds de 100 millions de dollars en France?
Alors, c'est de l'investissement, hein, donc forcément, c'est positif. Ils ont évoqué trois sujets sur lesquels ils pouvaient investir. Le premier, c'est un centre de R&D. en France, particulièrement à Paris. Le sud de la France a aussi été évoqué, donc un centre de R&D pour Binance. Le deuxième levier, c'est un accélérateur de start-up. Donc Binance veut investir dans les entreprises françaises. Alors, par quoi ça passe ? Ça pourrait aussi passer par une prise de participation dans des entreprises françaises, par exemple, pourquoi pas. Et puis, le troisième levier, c'est la formation. Et c'est la création, ou en tout cas l'accélération de formation sur la blockchain et les cryptos en partenariat avec Ledger et Open Classrooms, il me semble, sachant que ce fonds de 100 millions de dollars se fait aussi en partenariat avec France FinTech, donc un fort investissement de Binance en France.
Objectif Lune, c'est le nom de ce...
Objectif Lune, exactement, le nom de ce fonds, c'est ça. Objectif Moon.
Ouais, c'est ça. Pourquoi la France est-elle si attractive du coup aux yeux des géants de la crypto-monnaie, vous le dites, et Owen le disait parfaitement, oui. Binance pense évidemment aussi à ses intérêts. Pourquoi la France ?
Alors, deux choses ont été évoquées par CZ. Le premier, c'est les talents, notamment les talents techniques, les ingénieurs français. La France est un beau vivier d'ingénieurs. Alors, on sait aussi qu'il y a une niche fiscale qui va avec, hein, qu'on appelle le crédit impôt recherche, qui permet d'embaucher des profils techniques pour de la R&D à un tarif, ou en tout cas à un prix un peu moins élevé, puisqu'on économise des charges. Et puis, la deuxième chose qui a été évoquée par CZ, c'est que les personnes qu'il a rencontrées, donc les régulateurs, les institutions, le gouvernement, ont été pro-business et lui ont donné envie de venir. Alors ça, c'est très positif, parce qu'effectivement, ça fait plusieurs années qu'on répète qu'il faut attirer des acteurs étrangers en France, il faut attirer des exchanges étrangers, des mineurs, etc. Mais c'est aussi très paradoxal, parce qu'on sait qu'à côté, en France, on a d'autres exchanges qui existent depuis 5 ans, voire 10 ans pour certains, et qui n'ont jamais été mis en avant de cette façon-là, qui n'ont jamais été invités à Bercy dans une conférence, qui ont du mal, par exemple, à ouvrir des comptes en banque, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on en est là. Quand on est une start-up crypto en France, c'est dur d'avoir un compte en banque.
Donc on déroule le tapis rouge à un Chinois, et vis-à-vis des acteurs français, on fait manifestement pas beaucoup d'efforts.
En tout cas, c'est le ressenti qu'il y a eu dans l'écosystème de la part de beaucoup d'acteurs. Et on a eu l'impression, en regardant cette conférence, qu'il y avait une forme de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on s'est tous dit, mais c'est génial d'avoir un acteur comme Binance qui arrive en France. Mais de l'autre côté, il y a un contexte qui fait que on s'y attendait pas du tout, parce que c'est pas la manière à laquelle on a été habitué sur la crypto, en tout cas par notre gouvernement.
Il y a un comportement un peu Dr Jekyll et Mr Hyde là, de la part de la France, qui déroule le tapis rouge à un acteur, un géant chinois, et qui par ailleurs maltraite, c'est un grand mot, mais en tout cas laisse un peu de côté les autres acteurs, et les acteurs français particulièrement, le gouvernement, l'État, en tout cas les autorités là, sont un peu schizophrènes de votre point de vue aussi, Owen?
Alors, c'est très étrange, parce que évidemment, ça a lancé des discours tumultueux sur les réseaux sociaux, et pour autant, c'est très excitant à observer. En fait, il y a plein de choses que l'on peut déceler dans ces différents échanges et dans la position qu'a pris, que ce soit Cédrico ou que ce soit Sisi, de venir prendre la parole en France. La toute première chose, c'est le fait que Binance n'a pas dit qu'ils allaient investir 100 millions en France. Ils ont dit que s'ils devenaient PSAN, donc s'ils arrivaient à être régulés en France, ils investiraient 100 millions. Là, déjà, c'est quelque chose de très intéressant, et c'est là qu'on voit le positionnement et la réelle stratégie. On entend également dans le discours de Cédrico qu'on a besoin d'investissements dans ces domaines. Et on a Sisi qui répond en face, oui, nous, on peut investir si nous sommes régulés. Là où je rejoins Claire, c'est qu'en effet, il y a également un sacré paradis en France sur le crédit impôt recherche et sur la R&D. Évidemment, Binance innove. Binance a les outils les plus performants qui sont utilisés par le plus d'utilisateurs. Malgré tout, je ne pense pas que ce soit le principal intérêt de Binance sur du court terme, parce que Binance a une seule ressource en abondance, de l'argent. Vous savez, on dit que le Bitcoin n'a de valeur que la confiance que l'on lui porte. C'est vrai dans l'écosystème du monde de la crypto-monnaie. On utilise un exchange quand on a confiance en lui, quand on pense qu'il gardera avec sécurité nos crypto-monnaies. Quand on dézoome un petit peu, Binance a perdu un petit peu de cette confiance depuis qu'il y a eu quelques problèmes avec le régulateur. C'est très stratégique et très important pour Binance d'obtenir le PSAN en France. Il s'agit d'une priorité absolue. Et cette confiance gagnée sur du très court terme ne rapportera pas quelques dizaines, voire centaines de millions, mais je pense bien des milliards et des milliards de volumes sur du très court terme quand on connaît la France dans les objectifs de Binance. Quand on dézoome sur tout ça, il y a une légitimité des acteurs français qui sont SAN, qui n'ont pas vraiment été considérés en France pour le moment. Ça a été une barrière pour eux. On a dû se réguler. Ça a été très compliqué pour les entrepreneurs français et on n'a pas vraiment été considérés plus que ça. On voit le géant Binance international qui se fait dérouler le tapis rouge. En réalité, ce n'est pas vraiment surprenant et je ne pense pas que ça a surpris beaucoup de monde parce que Binance peut apporter beaucoup à la France ou du moins à son écosystème de par sa puissance financière. Bien que d'un point de vue légitimité, il aurait été de bon augure qu'un acteur français, un PSAN, qui ait suivi à la lettre la régulation française, puisse intervenir dans ce débat.
Claire, pleinement convaincue ou quelque chose à apporter, à compléter là-dessus sur ce que nous explique Owen?
Complètement d'accord avec Owen et on espère aussi que ce sera un déclic quelque part et que finalement si le gouvernement est capable d'attirer des entrepreneurs comme CZ en France, il sera aussi capable d'aider un peu plus les acteurs français et que finalement l'arrivée de Binance va être un catalyseur pour l'écosystème français.
Si tu ne viens pas à la Chine viendra à toi. Hein. C'est vraiment ce qu'on observe en ce moment dans les cryptos et donc le patron de Binance en visite à Paris, ça a été l'une des controverses de la semaine mais peut-être aussi l'une des opportunités pour Binance mais aussi pour la France quand même pour se positionner sur ce marché bien évidemment de plus en plus stratégique. Alors la blockchain, les cryptos sont aussi les NFT, vous en entendez de plus en plus parler et les NFT ont désormais peut-être leur bande originale. Vous allez entendre cette musique, elle va vous rappeler quelque chose bien sûr. Quentin Tarantino se lance dans les NFT, figurez-vous, et à travers Pulp Fiction. Oui, c'est l'une des annonces aussi des derniers jours, des usages de plus en plus variés pour ces NFT. Dernière en date, donc Quentin Tarantino s'y convertit. Il va lancer une collection de NFT. Ces NFT seront des extraits de Pulp Fiction, messieurs, dames. Impressionnant, incroyable, encore, petit côté éblouissant dans tout ça. Ces NFT seront lancés sur la blockchain de Secret Network. C'est une blockchain qui permet de bénéficier de l'anonymat des transactions et également de donner le droit de visualiser son NFT à son détenteur uniquement. Est-ce qu'il existe d'autres blockchains qui permettent l'anonymat des transactions, Claire? À quoi servent d'ailleurs ces blockchains et ces NFT?
Oui, alors bien sûr, rappelons déjà que la plupart des blockchains ne sont pas anonymes mais pseudonymes. C'est vrai qu'il y a souvent cette erreur qui est faite, donc Bitcoin n'est pas anonyme. Vous voyez les numéros de compte, vous voyez les adresses. Et effectivement, il existe quelques blockchains qui permettent cet anonymat. Je pense par exemple à des blockchains comme Monero ou à Zcash qui vont permettre de masquer les adresses, voire aussi le montant des transactions. Et donc c'est des blockchains qui concrètement vont vous permettre de faire des transactions anonymes et donc de pouvoir envoyer de la crypto-monnaie avec beaucoup moins de traçabilité que sur des blockchains traditionnels comme Bitcoin ou comme Ethereum sur lesquels il y a une meilleure traçabilité, sur lesquels il y a des entreprises qui sont même spécialisées dans la traçabilité des transactions pour détecter les potentielles fraudes. Donc effectivement, on se rend compte aujourd'hui que là où les gens qui voulaient avoir des activités illicites avec les crypto-monnaies pouvaient peut-être encore un peu utiliser Bitcoin il y a 5 ans ou 10 ans, aujourd'hui ne peuvent plus le faire parce que Bitcoin et Ethereum sont régulés, sont traçables. Et donc ces blockchains anonymes permettent tout simplement d'être sûr de ne pas avoir son identité.
Oui. Ce sont des refuges pour les acteurs en quête d'anonymat. Ces NFT, certains de ces NFT, selon les blockchains.
Anonymat ne veut pas dire forcément activité illicite. Hein. Il faut dire aussi qu'on peut vouloir être anonyme pour d'autres raisons. Mais effectivement, c'est une fonctionnalité intéressante.
L'anonymat et la transparence pourront-elles un jour être les deux faces d'une même pièce? Aujourd'hui, on vante énormément la transparence des blockchains, comme celle de Bitcoin ou d'Ethereum, mais cette transparence peut également détériorer la protection des données personnelles et données sensibles, comme par exemple celle des entreprises. Quel est votre avis, Owen? Est-ce qu'un juste milieu entre la transparence et la garantie d'anonymat sur la blockchain est possible pour faire, de la transparence et de l'anonymat, les deux faces d'une même pièce?
Alors, il est possible, mais il va falloir innover, pour la simple raison qu'il n'y a pas aujourd'hui toutes les solutions. Je donne un exemple très simple. L'anonymat complet permet de garantir sa vie privée. C'est totalement sain et c'est totalement légitime. Mais généralement, c'est rarement pour cacher la marque de pot de yaourt que l'on mange que l'on a besoin d'être totalement anonyme et intraçable. Et évidemment, c'est la minorité qui abuse de cet anonymat qui fait que l'on doit définir un cadre pour contrôler l'ensemble. Parce que c'est très souvent pour réaliser des activités illicites que l'on veut être totalement anonyme. Mais il existe également des acteurs qui veulent juste être anonymes pour être discrets, parce qu'ils veulent conserver leur vie privée. C'est un entre-deux très délicat à définir, même dans la blockchain. En fait, on peut faire des parallèles sur tout. Je prends l'exemple de tout l'écosystème. Dès qu'on veut réguler, on veut réguler la finance décentralisée, mais si on la régule avec le même cadre que la finance centralisée, on va tuer la décentralisation. Donc pour réguler, parce que l'on doit maîtriser les flux, empêcher le blanchiment d'argent, empêcher le financement du terrorisme, on va devoir trouver des nouvelles solutions qui respectent les codes de la finance décentralisée et qui vont permettre de surveiller les abus malgré tout. De la même façon, les normes RGPD. Jusqu'à présent, quand on écrivait sur la blockchain, c'était totalement indélébile. On ne pouvait pas revenir en arrière. Et du coup, on s'est dit, OK, dans les normes RGPD, on a le droit à l'oubli. Un utilisateur peut dire « je veux supprimer mon compte et je veux que la plateforme oublie les informations que je lui ai données ». La blockchain ne peut pas faire ça intrinsèquement, ça fait partie de sa technologie. Pourtant, il y a des gens qui ont déjà innové, il y a des gens qui ont déjà trouvé des solutions, comme par exemple, la blockchain certes ne peut rien effacer, mais elle peut chiffrer une information, donc elle peut prouver que plus personne ne sera capable de la lire à jamais, ce qui répond aux normes RGPD sans pour autant, on va dire, briser le concept de la blockchain et ses fondements. Donc oui, un entre-deux entre l'anonymat de contrôle va être faisable, mais il va falloir innover, il va falloir le créer. Encore une fois, un anonymat total à prouver que la population en abuse et qu'une minorité réaliserait des activités illicites, et un anonymat inexistant, donc un contrôle d'un gouvernement à prouver dans de multiples reprises et dans le passé, que naturellement, à un moment, ce gouvernement pourrait abuser de cette information et prendre un contrôle supérieur sur la population. Donc c'est très délicat et ce sont des curseurs. Encore une fois, ce ne sera pas un zéro, ce ne sera pas un 1. Il faudra de la bonne intelligence, du temps, du travail et surtout de l'innovation.
Il faudra avancer comme des hérissons avec énormément de précautions. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés pour les pros des cryptos chaque vendredi. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Merci Claire d'être venue nous voir jusqu'en plateau malgré une cheville un peu défaillante, c'est ça. Bon retour. Owen Simonin aussi nous accompagner depuis la Moselle à la tête de Just Mining, connu aussi bien sûr pour sa chaîne YouTube. Hacher avec un H au début. Un grand merci aussi à Vincent Gann qui nous accompagnait depuis TradingView France. Salut les amis, bon week-end. La semaine prochaine, vendredi prochain, vous serez sur le pont, hein, même pendant le pont du 11 novembre, vendredi 12 novembre prochain, prochain épisode des Pros des Cryptos. Le CAC 40 est en hausse actuellement, toujours au-dessus des 7000 points, on va y revenir hein, sur ce nouveau record des indices et du CAC 40 aujourd'hui. Dans un instant avec nos experts du club, on est à vos côtés, on joue dans votre camp sur l'ensemble de vos placements. Et jusqu'à 18h, à tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.